Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer à Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sports, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sports, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Voilà, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux, hein, devant vos postes récepteurs pour suivre cette émission. Okapi, un service. Les personnes vivant avec le VIH et SIDA doivent bien se nourrir pour renforcer leurs anticorps. D'après les médecins, leurs aliments doivent être riches en fer, en calcium et autres. Cependant, avec la crise et l'ignorance, certaines personnes vivant avec le VIH sont mal nourries, ce qui occasionne des crises à répétition dans leur vie. Alors, quel est donc le régime alimentaire que doit avoir une PVV? Nous avons dans ce studio, comme je l'ai dit en sommaire, M. Nicolas Johannis, responsable nutritionniste pour le PAM en RDC. Ben, il est nutritionniste de santé auprès du PAM. Nous avons notre invité, donc, nous vous invitons également à participer, à poser quelques questions ou également vos préoccupations afin d'avoir des éclairages autour de cette problématique. Voilà, M. Nicolas, c'est encore et bonjour.
Oui, bonjour, bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, est-ce qu'une bonne alimentation d'entrée de jeu ou bien une alimentation équilibrée est indispensable pour une personne vivant avec le VIH/SIDA?
Donc, en fait, les recommandations générales qui prévalent pour l'alimentation pour la population en règle générale sont aussi valables pour les personnes vivant avec le VIH. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les personnes vivant avec le VIH ont un besoin énergétique, donc en termes d'énergie, de quantité d'énergie supplémentaire par rapport à une personne qui ne serait pas infectée par le VIH. Les recommandations internationales indiquent que les besoins énergétiques seraient augmentés surtout de 10% pour les personnes vivant avec le VIH qui ne présenteraient pas de symptômes. Mais ces besoins peuvent être encore augmentés de façon beaucoup plus significative, jusqu'à 20-30%, même 50% des besoins énergétiques additionnels pour les personnes vivant avec le VIH qui sont dans des phases qu'on appelle symptomatiques, c'est-à-dire la manifestation de certaines maladies opportunistes.
Mais voilà, alors que vous avez parlé des besoins énergétiques, je reviens pour la deuxième question, quels sont ces besoins énergétiques et protéiques? Parce que là, c'est associé énergétique et protéique, qu'exige l'organisme d'une PVV, pour éclairer un peu la lanterne des auditeurs.
Voilà, alors, l'énergie est apportée par ce qu'on appelle les macronutriments, c'est-à-dire donc les protéines, les lipides et les sucres. Mais l'énergie n'est pas suffisante toute seule pour faire bien marcher le corps humain. Il faut aussi des vitamines et des minéraux qui, elles, n'apportent pas d'énergie, mais qui sont essentiels pour le bon maintien du système immunitaire, ce qui est absolument fondamental dans la problématique du VIH. Comme vous le savez, le VIH s'attaque avant tout au système immunitaire des patients. Donc une bonne nutrition va maintenir le maintien du poids corporel, le maintien d'une bonne immunité, va favoriser la résistance contre les infections, la réduction des maladies opportunistes, leur incidence, leur durée, leur sévérité, et va maintenir un bon appétit, et ainsi est bouclé le cycle virtueux de la bonne nutrition en relation avec l'infection au VIH.
Et parce que nous parlons de maladies opportunistes, il faudrait quand même que les auditeurs se fassent une idée très claire là-dessus. Les maladies associées au SIDA, notamment la tuberculose et d'autres encore.
Voilà, la tuberculose, donc, qui est parmi la principale maladie associée au VIH, mais il existe tout un ensemble de symptômes liés à différentes infections, donc virales ou bactériennes, mais qui, pour nous, ce qui est important, c'est que ça sont toujours associés avec une perte de poids quand on parle des patients séropositifs. C'est pour ça qu'il est important d'assurer une alimentation de qualité et en quantité suffisante pour tous les patients séropositifs.
Oui, Monsieur Nicolas, à quel stade, après d'ailleurs la connaissance de son état sérologique, peut-on surveiller son alimentation? Est-ce au stade fenêtre ou bien au stade symptomatique?
Alors, à partir du moment où le patient a été dépisté séropositif, il est recommandé de lui apporter au moins les premiers conseils pour savoir déjà qu'il va avoir des besoins additionnels et qu'il faut qu'il y réponde. qu'il améliore son alimentation, c'est-à-dire en termes d'énergie, comme je vous ai dit, mais surtout qu'il diversifie. Car un des problèmes, et là qui ne concerne pas simplement cette catégorie de population, mais l'ensemble de la population congolaise, ce qu'on observe, c'est que les régimes alimentaires ne sont pas suffisamment diversifiés. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des aliments de différents groupes alimentaires, des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses, comme les haricots, qui soient intégrés dans le régime alimentaire pour favoriser une alimentation saine qui permette une vie active.
Oui, ben, dans bien des cas, les personnes vivant avec le VIH sont en majeure partie anorexiques. Comment doit-on faire pour pallier cette crise ici?
Alors, effectivement, dans le cadre des infections, en particulier de l'infection
des gens anorexiques, les gens qui perdent un peu l'appétit,
souvent, voilà. L'anorexie étant une conséquence de la perte d'appétit, donc l'anorexie est constatée dans l'ensemble des infections, peut être constatée dans l'ensemble des infections, en particulier dans l'infection au VIH. Donc, c'est lié à une perte d'appétit, cette perte d'appétit est elle-même liée soit à des problèmes physiologiques, par exemple la présence de plaies dans la bouche ou dans l'œsophage qui peut rendre difficile et même douloureuse l'ingestion des aliments, ou alors d'ordre psychologique, c'est-à-dire que la maladie, le contexte environnement social pèse sur le patient et joue sur son appétit. Donc il est absolument fondamental de stimuler l'appétit des personnes séropositives en leur proposant des aliments qui correspondent à leurs habitudes alimentaires, en respectant leur goût. Par exemple, s'ils préfèrent manger sucré, il faut qu'ils mangent sucré. Si le sel les indispose à cause de plaies, par exemple dans la bouche, évitez les régimes salés. Dans le cadre de la gestion de l'appétit, il peut être proposé une alimentation sous une forme de bouillie aussi, qui peut faciliter l'ingestion. Voilà. Donc il faut vraiment prendre en compte cette dimension qui est fondamentale pour maintenir un apport suffisant dans le cadre du VIH.
Oui, il y a peut-être une curiosité, je reviendrai, parce que c'est une rubrique interactive, nous aurons besoin des auditeurs. Je reviendrai sur ma question pour savoir, il y a des PVV qui développent au sein de l'organisme aussi des maladies héréditaires, il y a d'autres qui ont peut-être, c'est pas qu'il y a des maladies opportunistes, mais qui sont nés avec, ils sont nés peut-être avec des diabètes. Alors là, je compte même au niveau de l'alimentation, il faut tenir compte de tous ces aspects. Nous y reviendrons, mais il est temps pour nous de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à cette émission en composant bien entendu les 081-890-63-94 pour les appels et les 081-070-2050 pour les SMS. Gabriel Bétis, vous êtes à Kalima et là nous sommes au Maniema. Bonjour.
Allô.
Bonjour Gabriel, vous êtes au Maniema, vous êtes avec nous?
Oui, je suis Gabriel Bétou, je vous appelle à partir du Maniema, précisément à Kalima.
Et quelle est votre préoccupation?
Ok, ma préoccupation est celle-ci. Quel avantage il y a de cette alimentation pour les malades, pour tuer les microbes ou pour donner une longue durée de vie?
Voilà, merci Gabriel. Nous avons également Amissi et Fataki de Kindu, toujours au Maniema. Voilà, nous passons, nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour faire un coucou à tous les auditeurs qui nous suivent au Maniema. Amissi, bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour.
Alors, M. Amissi, quelle est votre préoccupation? Allô, Amissi? Voilà, nous revenons sur la question de Gabriel. Monsieur Nicolas, Gabriel voulait savoir si, disons, le rôle que joue une bonne alimentation, c'est pour tuer les microbes, est-ce que c'est pour ralentir un peu l'évolution des virus? Ben, en fait, c'est quoi l'objectif?
Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, l'alimentation, le maintien d'un bon état nutritionnel est fondamental dans le maintien d'un système immunitaire qui est performant, notamment donc dans le cas du VIH. Comme je vous l'ai dit, le VIH s'attaquant à notre défense, ce qui nous protège des infections extérieures, il est fondamental que d'apporter une bonne nutrition au patient pour qu'il puisse maintenir son système immunitaire, ce qui va ralentir l'évolution de la maladie, au lieu de passer dans des stades plus symptomatiques, peut-être rester à une phase asymptomatique, et ça va certainement aussi faciliter l'adhérence au traitement pour ceux qui sont sous traitement ARV, et donc prolonger, évidemment, l'espérance de vie en bonne santé.
Oui, une curiosité, ça pourrait être une question trop bête, que pourrait se poser tout homme de la rue. Aujourd'hui, cette alimentation, cette bonne nutrition, peut-être reconstituer encore le système immunitaire?
Absolument, certaines vitamines et certains minéraux, également comme certains éléments protidiques, interviennent directement dans le renforcement, dans la synthèse de ces éléments du système immunitaire qui vont vraiment renforcer notre protection. Je pense à la vitamine A, par exemple, la vitamine C, la vitamine E, ou les protéines qui sont très importantes pour le maintien d'un bon système immunitaire pour faire face à la maladie. Et surtout, hein, nous, on n'oublie pas notre objectif ici, c'est éviter la perte de poids, le maintien du bon poids corporel.
Tamboué Mokeba, vous êtes à Kolwezi, c'est au Katanga. Bonjour, M. Tamboué.
Bonjour, bonjour.
Vous avez quelle préoccupation ?
Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour. Alors, quelle est votre préoccupation ?
Bon, ma préoccupation, c'est ici. Ma préoccupation, c'est ici.
Allez-y.
Moi, bon, j'aimerais bien que ça va passer chez nous à ça. Moi, je ne suis pas au Kolwezi, je vais quand même porter cette correction. Je ne suis pas au Kolwezi, je suis à Kalemie.
Voilà, à Kalemie ou au Katanga. Voilà, mais c'est
bon, voilà, j'aimerais bien poser cette question parce que j'aimerais d'abord savoir quels sont les aliments pour que ma vie qui est un peu bébé, qui est un peu quand même consommé pour un peu garder son poids.
Voilà, donc c'est une question. Voilà, donc quelle est l'alimentation recommandée?
Ça, c'est la première question.
Oui, la deuxième, la seconde. Voilà, mais
c'est une question parce qu'hier, c'était pour le parce que dans nos marchés ici, il y a quand même ces deux aliments, par exemple, et certains aliments que je peux te recommander pour te garder le poids, que vous pouvez quand même parcourir dans certains marchés, donc vous ne pouvez pas retrouver ces aliments. Et voilà, que faire de là pour bien te garder ce poids-là.
Ok, merci Tamboué d'être intervenu et surtout d'avoir participé. Et nous profitons de faire un coucou à tous ceux qui nous suivent à Kalemie. Hein, comment on les appelle, Tati? Les Kalemiens. Voilà, voilà. Alors, nous allons retrouver M. Nicolas. D'après Tamboué, quels sont les aliments qui peuvent aider à maintenir son poids ou peut-être à augmenter le poids?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'aliments miracles en soi qui vont permettre de maintenir le poids par la simple ingestion de cet aliment. En fait, il faut toujours garder à l'esprit qu'un régime alimentaire est adéquat à partir du moment où il apporte différents types d'aliments en quantité suffisante. Parce que ces différents types d'aliments ont tous des propriétés intéressantes pour le corps humain qui vont lui permettre de maintenir son poids corporel et de le maintenir actif et surtout renforcer le système immunitaire. Donc, il n'y a pas d'aliments. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que il faut augmenter la part énergétique. Ça, c'est le premier point. Donc, consommer, par exemple, un peu plus de céréales, un peu plus de légumineuses, un peu plus de racines et tubercules, mais sans mettre, sans écarter le reste des groupes alimentaires qui sont absolument...
Je comprends bien, Nicolas. Donc, il faut manger des aliments riches en fer, en calcium et autres. Mais il ne faut pas non plus exagérer parce que c'est plus il y en a à l'excès, ça peut peut-être avoir un effet à un moment.
Alors, la gestion de l'alimentation des personnes vivant avec le VIH est un domaine extrêmement complexe. Je vais vous dire pourquoi. Il existe de nombreuses interactions. Tout d'abord, entre le VIH et la physiologie de la nutrition au niveau du patient. Également, entre le traitement ARV et la physiologie du patient. Le traitement va pouvoir peut-être détourner certains micronutriments, changer le métabolisme, la façon dont il utilise ces aliments, ces nutriments qui viennent de l'alimentation par le corps humain. Donc il existe tout un ensemble d'interactions qu'il faut pouvoir appréhender, mais là au niveau individuel, hein, ça demande du suivi, des conseils au niveau individuel pour faire face à toutes les interactions. D'autre part, comme je l'ai dit, les PVV sont souvent, doivent faire face souvent à des effets secondaires liés à leur traitement ARV. Ces effets peuvent être par exemple ce qu'on appelle la lipodystrophie, c'est-à-dire une mauvaise répartition du tissu graisseux chez le patient, et ça, ça peut être appréhendé en consultation avec un spécialiste de nutrition qui va indiquer, voilà, peut-être manger moins gras ou répartir l'équilibre lipidique dans la ration à travers différents types d'aliments. Mais la gestion est extrêmement complexe et c'est pour ça que je me sentirais mal à donner des conseils ici spécifiques à l'antenne, car c'est un domaine où il faut vraiment avoir recours aux conseils individualisés.
Alors, je vais revenir sur la question, disons la préoccupation que j'avais tout à l'heure, mais c'est d'abord de prendre Freddy Bassara de Bouya. Bonjour Freddy.
Bonjour les journalistes.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation, disons, est celle-ci. Si par exemple le premier de l'audience vient, celui qui a depuis donc disait se poser la question. Est-ce que pourra-t-il vraiment causer des infections
grave, c'est ça ma question.
Voilà, si vous pouvez peut-être répéter, voilà, pour que nous comprenions, là vous sentez vraiment très coupé.
Je dis ceci.
Oui.
Est-ce qu'il est aussi probable, il faut que je change alors, est-ce qu'il est probable de prendre aussi de l'autre vert? C'est à celui qui
peut déjà. Ok, d'accord. Merci, Freddy. Un coucou à tous ceux qui habitent ou qui sont de tout ce monde qui est suivi à partir de la profession orientale. La préoccupation est liée à aux légumes verts.
Alors,
voilà, les gens qui consomment, les PVV qui consomment ça, il y a danger.
Alors, non, il est recommandé, évidemment, les fruits et les légumes sont une grande source très accessible de micronutriments, c'est-à-dire de vitamines et de minéraux. Donc, il est évidemment conseillé à tout le monde, en particulier à ceux qui sont vivants avec le VIH, de consommer des fruits et des légumes pour avoir justement accès à ces vitamines et ces minéraux. Certains, je pourrais même citer par exemple la feuille de manioc ici, hein, comme le manioc est un élément très consommé en RDC, par exemple la feuille de manioc, en plus de contenir des vitamines et des minéraux, contient aussi beaucoup de protéines. Donc voilà, ça, ceux qui aiment manger la feuille de manioc, c'est très bon, c'est un légume vert qui est très bon, qui va leur apporter différents types de nutriments. Là où je voudrais revenir, c'est par rapport à la préparation de ces fruits et légumes. En particulier dans le cadre du PVV, il faut faire très attention à ne pas l'exposer à des sources de contamination. Donc quand on veut préparer des légumes, déjà il faut que les légumes soient propres à la consommation. Donc il faut qu'ils aient été lavés, hein, soit avec de l'eau, et bien lavés, pour éliminer les formes de contamination microbiologique qui pourraient ensuite contaminer le patient vivant avec le VIH. Donc, le point important, c'est que quand vous voulez consommer des fruits et des légumes, notamment frais, hein, donc non cuits, faire très attention au bon respect des normes d'hygiène alimentaire pour éviter la contamination par des bactéries ou des parasites qui se trouveraient sur ces aliments.
Eric Moukouna de Lubumbashi, bonjour Eric. Bonjour Eric.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Alors, quelle est votre question?
Ma question, c'est aussi. Ouais, ma question c'est si je sais bien que parmi les PVV, il y a des gens qui n'ont pas étudié. Alors, quelle est la structure qu'on peut organiser pour leur fixer un peu facilement, d'une manière simplifiée, les aliments énergétiques et qu'on soit pas fait. C'est un peu vague. Les gens qui comprennent bien comprendre ça, c'est les gens qui ont fait la nutrition et qu'on soit. Quand vous parlez d'aliments énergétiques, aliments,
protéiques.
C'est pas protéiques, je ne sais pas moi là. C'est un peu.
Oui, c'est trop scientifique et puis oui. C'est pour une classe quoi en fait.
Oui, c'est un peu trop vrai quoi.
Voilà, alors monsieur Nicolas va vous répondre.
Alors, c'est vrai que la nutrition, il faut l'apprendre, monsieur Eric. Votre question est tout à fait pertinente. Ce que je peux vous dire, c'est que ici, par exemple, en RDC, dans d'autres pays, on utilise pour simplifier une classification des aliments en trois groupes. D'un côté, le groupe d'aliments qui apportent l'énergie. D'autres, l'autre côté, c'est les aliments qui apportent les éléments nécessaires à la construction. Et un troisième groupe, les aliments qui apportent des éléments nécessaires à la protection du corps humain, donc là, l'immunité. Hein. Donc, comme je vous ai dit, je vais pas vous donner comme ça des listes d'aliments,
que la liste n'est pas exhaustive,
donc voilà. Mais, alors, ce que fait, par exemple, le programme alimentaire mondial en RDC, le programme alimentaire mondial lutte contre la pandémie de VIH en RDC avec la porte d'entrée de la malnutrition ou de l'insécurité alimentaire. Donc, nous travaillons avec des ONG, avec le gouvernement, pour mettre en place des centres où sont disponibles ces conseils, conseils liés donc à l'alimentation des personnes vivant avec le VIH. Nous faisons aussi de la réhabilitation nutritionnelle pour les patients qui sont en état de malnutrition. Et aussi, nous avons des opérations qui visent spécifiquement les femmes, dans le cadre des programmes de prévention de transmission du virus de la mère à l'enfant. Parce que, par exemple, lors de l'allaitement maternel, il existe un risque de transmission du virus de la mère à l'enfant. Donc, ça fait partie de l'alimentation. Donc, ce sont des domaines que nous essayons aussi de prendre en compte. Donc, voilà. Donc, il faut se renseigner auprès de votre zone de santé, savoir quelles sont les structures disponibles qui peuvent vous donner des conseils en alimentation ou une prise en charge si nécessaire.
081-890-63-94, ce pour les appels, et le 081-070-2050 pour les SMS.
La radio Kapi, c'est un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Ouroumbé. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Et si vous nous rejoignez, bienvenue à Okapi Service qui se poursuit. Nous avons dans ce studio Nicolas Joanny, qui est nutritionniste de santé auprès du PAM, qui, aborde la question, la problématique de PVV, de l'alimentation de PVV, et quelle est l'alimentation appropriée pour une PVV afin de pouvoir, respirer ce système immunitaire. Nous avons, nous rappelons que vous pouvez intervenir et aussi avoir quelques éclairages sur des préoccupations que vous avez autour de cette question. Mais la question que j'aurais posée, Nicolas, tout à l'heure, à savoir est-ce que une personne qui vit, par exemple, avec une maladie héréditaire, parce que tout au long de sa vie est disposé à suivre à la lettre certaines dispositions. Alors, ajouter à cela son état sérologique de quelqu'un qui vit avec le VIH-SIDA, les choses se compliquent davantage pour vraiment la prise en charge des services, surtout même la prise en charge nutritionnelle.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, quand vous avez cité le diabète tout à l'heure, dans le cas du diabète, il faut non seulement gérer les interactions, comme je vous ai dit, VIH-nutrition, ARV nutrition, et en plus les diabétiques aussi qui doivent bénéficier d'un suivi nutritionnel spécifique à cause du dérèglement en cours provoqué par le diabète. Donc là, c'est pour ça qu'en domaine de santé publique, on quitte le domaine pur de la santé publique, on va vers un domaine de santé beaucoup plus clinique, où là, il faut vraiment un suivi individualisé du patient, même dans la gestion des cas de diabète, dans une structure quand même médicalisée. Donc ça, ce sont des problèmes extrêmement spécifiques qui peuvent être effectivement donc aggravés par le VIH. Le VIH est aussi une cause de cancer, forme de cancer digestif, et donc oui, l'alimentation doit pouvoir aussi permettre de prévenir soit l'apparition de cancer ou prévenir l'intensité du diabète chez les patients diabétiques.
Alors, l'alimentation, on sait tout de même que les ARV aujourd'hui, et certaines personnes, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, qu'elles disent que les ARV constituent aujourd'hui un complément alimentaire aussi. Est-ce que vous partagez cet avis?
Alors, les ARV ne sont pas un complément alimentaire, c'est un médicament,
peut-être.
Mais ceci dit, c'est que, effectivement, quand on prend en charge un patient séropositif, qui est en situation de dénutrition, imaginons qu'on le mette sous traitement ARV, on va pouvoir observer dans beaucoup de cas une amélioration de son statut nutritionnel juste par le fait de son traitement ARV. D'accord ? Ça va faciliter la lutte contre le VIH, donc ça va donner plus de latitude au corps pour se défendre contre la malnutrition. Donc le traitement ARV seul permet aussi d'améliorer le statut nutritionnel, mais ce n'est pas suffisant, parce que souvent les traitements ARV ont beaucoup aussi d'effets secondaires sur l'alimentation, qui peut avoir comme conséquence l'arrêt du traitement d'ailleurs.
C'est pourquoi on n'est pas éligible aux ARV quand on est vraiment à un stade final. Les corps sont, disons, toutes les cellules sont vraiment, ne peuvent plus se reconstituer. Et selon certaines personnes, c'est pourquoi on évite des gens qui ne sont pas à même de pouvoir, ne veulent pas encore l'aspect aptit, ils ne sont pas éligibles. Mais bon, il y a beaucoup d'exigences.
Il faut effectivement prendre au cas par cas et on ne traite pas de la même façon le VIH qu'on traite la malnutrition. Ce sont deux protocoles thérapeutiques différents et qui doivent pouvoir se compléter. Après, effectivement, il existe des indications spécifiques dans certains cas où le traitement et l'alimentation ne sont pas recommandés en même temps, mais ça reste des cas quand même extrêmement rares. Dans la majeure partie des cas, ce qu'on peut observer nous sur nos programmes et les témoignages qu'on récupère sur le terrain, c'est que l'alimentation favorise grandement l'adhérence au traitement ARV et donc facilite à la fois l'impact de ce traitement et le maintien d'un bon statut nutritionnel.
On va terminer avec Tabala de Kindu Manema. Bonjour Tabala.
Bonjour intervenant. Bonjour.
Voilà, quelle est votre préoccupation?
Et ma préoccupation, j'ai dit le projet sur l'émission, malheureusement, je ne sais pas tout ce que j'ai dit. Et ma préoccupation se trouve au sujet de l'alimentation du PVV. En fait, je voulais poser la question à l'invité. Est-ce que si, par rapport à l'alimentation du PVV,
qu'elle est maintenant résultat entendu dès que le projet applique l'alimentation.
Oui, M. Tabala, si vous pouvez peut-être répondre un peu à votre question, parce que là, vous sortez entrecoupé et parlez un peu fort.
Il y a un problème de connexion, il y a un problème de connexion, je suis en train de demander. Le résultat entendu, si le PVV est appliqué en alimentation, quel est maintenant le résultat entendu par rapport au PVV?
Ben voilà.
Pardon, je m'en dis, pardon.
Oui, allez-y.
Si c'est un certain type, quelques types d'alimentation que le PVV peut appliquer.
Ok. Alors, donc, on allait d'ailleurs citer par là, M. Nicolas, on revient encore sur l'impact que peut avoir une bonne alimentation ou une alimentation équilibrée, disons, pour une PVV. Et si vous pouvez peut-être éclairer davantage l'ensemble des auditeurs en spécifiant, donc, en catégorisant l'alimentation. Vous avez dit, il y a plusieurs catégories A, B et C, je crois.
D'accord. Alors, l'impact attendu d'une bonne alimentation sur un patient vivant avec le VIH, qu'il soit ou pas d'ailleurs sous traitement ARV, c'est la première chose, c'est le maintien de son statut nutritionnel, donc le maintien de son poids corporel, hein, faire en sorte qu'il puisse faire face à ses besoins énergétiques additionnels. Ça, c'est dans le cas d'une personne qui serait en situation de malnutrition. Une personne, une PVV par exemple, en situation de dénutrition, l'impact attendu du traitement ARV combiné à la prise en charge alimentaire, c'est une amélioration de son statut nutritionnel, afin qu'il retrouve un poids corporel adéquat et qu'il puisse faire marcher de façon adéquate son système immunitaire, ce qui va même, donc comme je répète, ce qui va même ralentir la progression du VIH dans le corps humain, diminuer l'incidence, la durée et la sévérité des maladies opportunistes et favoriser un bon état de santé général.
Alors les catégories ?
Alors les catégories. Donc dans les aliments, donc je vous l'ai dit, pour simplifier, on va dire il y a trois groupes d'aliments, les aliments énergétiques, les aliments de construction et les aliments de protection. Dans les aliments énergétiques, ce sont tous les aliments qui apportent de l'énergie. Donc
par exemple,
les céréales.
Les céréales, voilà.
Le riz, le blé, par exemple. Hein. Les racines et tubercules, donc par exemple patates douces, igname, manioc, certaines légumineuses comme le soja, les haricots aussi. Mm-hmm. Il y a aussi les aliments de construction. Les légumineuses sont aussi des aliments de construction puisqu'ils apportent des protéines qui sont indispensables à toutes les synthèses et à tous les tissus du corps humain. Et les aliments de protection, donc ce sont les aliments eux qui vont apporter peut-être un peu moins d'énergie, mais qui vont apporter les vitamines. Donc vitamine A, B, C, D, toutes les vitamines du groupe B, les minéraux, donc fer, calcium, zinc, iode, qui sont indispensables au maintien de l'immunité du patient séropositif.
Nicolas Joanny, nous rappelons que vous êtes un nutritionniste de santé auprès de PAM. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté d'éclairer davantage les auditeurs de Radio Capi et surtout ceux qui sont fidèles à cette émission Capi Service, le magazine qui rend service à toute la population congolaise. Merci et à très bientôt.
Merci pour votre invitation. Au revoir.